à tous, soyez les bienvenus dans Grand Main vous fasse en direct ou en podcast. Régulièrement, le vendredi, je vous propose une émission consacrée aux loisirs et à la maison. Et ce matin, le spécialiste des jardins, Philippe Collignon, nous délivrera quelques conseils pour choisir son sapin de Noël. Il nous dira également ce qu'il faut faire dans son jardin et sa terrasse alors que le froid s'installe, en compagnie de la journaliste Nathalie Elal. Zoom sur les épices à la fête en cette fin d'année, pas que dans le vin chaud. Elle nous racontera également l'origine de la bûche de Noël et comment la choisir. Gavin's Clement Ruiz du Routard nous racontera son périple en van avec ses enfants. Ça peut vous donner des idées pour les prochaines vacances. Il nous proposera également de partir en décembre dans le Béarn, en vallée d'Ossau. Et puis nous évoquerons quelques meubles et objets de décoration responsables et respectueux de l'environnement avec Caroline Munoz. N'hésitez pas à poser toutes vos questions à nos experts au 01 45 24 7000 sur l'appli France Inter et sur la page Facebook de Grand Main vous fasse. Bonjour Guillemette Odissino.
Bonjour Ali.
La dame du vendredi
qui aime ça.
Qui aime toujours autant Noël.
Ah oui, j'aime toujours ça. Pareil que l'année dernière et les années précédentes. Là, il y aura de la bûche et tout. J'ai failli déjà mettre mon pull de Noël. Moi.
Vous évoquerez notamment un livre de recettes inspiré de la série très british Downton Abbey.
Ah oui, parce que moi je suis très 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 anglophile. Et alors là, mais vous allez voir, on va aller chez les servants et on va aller chez les maîtres.
A tout à l'heure, bienvenue dans Grand Bien vous fasse, la vie quotidienne, mode d'emploi.
France Inter. Grand Bien vous fasse. Ali Rébéi.
Bonjour Philippe Collignon.
Bonjour Ali.
Professeur d'horticulture de formation, chroniqueur à Télématin sur France 2. Vous avez notamment publié Le potager pour les nuls chez First. Bonjour Nathalie Elal.
Bonjour Ali.
Écrivaine et journaliste, passionnée d'histoire des arts de la table et de l'alimentation. Vous êtes notamment chroniqueuse dans Histoire Magazine et dans l'émission Je t'aime, etc. l'après-midi sur France 2. Merci pour vos gâteaux. Tout le monde les adore.
Mais je vous en prie.
Hein, même Laurence
Bloch. Ils sentent le beurre hein, quand même. Hein.
Même Laurence Bloch, notre.
Même la direction.
La direction a apprécié ces gâteaux. Bonjour Gavin Scrimon. Ruiz,
bonjour, allez.
Responsable au guide du Routard, vous venez de publier un très beau livre, Le Routard Voyage France, que vous évoquerez tout à l'heure. Bonjour Caroline Munoz.
Bonjour.
Vous venez de publier chez Mango, ma déco responsable, choisir et agir. Alors j'imagine Caroline Munoz que vous ne participerez pas au Black Friday aujourd'hui, symbole pour beaucoup du culte de la surconsommation et de l'achat déraisonné. Hein.
Ah bah non, absolument pas, effectivement.
Et vous pouvez d'ailleurs écouter le podcast de l'émission que nous avons consacré hier au Black Friday. Est-ce que le mois de novembre a pesé sur votre morale? Philippe Collignon, mois de novembre, comment vous l'avez vécu?
Non, moi j'aime toutes les saisons, tous les mois, tout est beau.
Parce qu'à l'Institut du Doigt Mouillé, autour de moi, le mois de novembre,
c'est le cas de le dire.
Guillemette Odissino.
Oui, non, quand même, un peu de franchise. C'est quand même un mois particulier, non? C'est un peu le mois de la déprime.
Bah, c'est ce qu'on dit, hein, c'est le mois où il y a le plus de suicides.
Ah, bah, mince alors.
Hein. Ça va, bonjour. Non, mais cette émission.
C'est surtout le mois où personne vous invite, personne fait de dîner. Les gens qui disent on va au Cinoche, finalement, ils annulent. Enfin, je sais pas, tout le monde annule les rendez-vous.
Non, mais c'est le mois aussi où on va se balader en forêt, on regarde le feuillage d'automne. Voilà, voilà, il faut sortir, il faut bouger, il faut sortir de son appart, là.
Mais dis donc, mais oh, mais j'ai pas dit le contraire. Mais le feuillage d'automne en forêt, comme tu le dis, c'est très bien, mais quand ça colle aux pompes et que ça glisse dans la rue, et tout ça, et qu'on a oublié son parapluie, c'est moins drôle, disons. Ça dépend des lieux, en fait, c'est toujours le problème, quoi.
Moi, j'adore le mois de novembre, c'est le mois de mon anniversaire, je suis toujours très gâtée, on dit que c'est parfait, au contraire, je l'attends avec impatience,
très
ce mois de novembre.
Très égocentrique, Nathalie Elal. Comment vous abordez ces fêtes de Noël? Avec joie, agacement, déprime, Gavin Scriventry?
Ah ben moi, avec joie, parce que pour la première fois depuis 41 ans, j'ai demandé des baskets à Noël, c'est la première fois de ma vie que je demande des baskets, c'est génial. Je me suis mis au sport, en fait.
Donc, c'est passionnant.
Non, mais c'est génial, c'est vachement bien. Donc c'est la première fois de ma vie.
Nathalie Elal.
Bah écoutez, moi là, je prépare plutôt les fêtes. Je prépare aussi psychologiquement pour le sapin à décorer, pour toutes les choses à acheter, les listes de cadeaux pour les enfants qui réclament. Donc c'est quand même un mois assez pesant aussi parce qu'il faut ne rien oublier et ne pas décevoir. Non, mais maintenant.
D'accord. Guillemette Odissino.
Alors, moi, un tout petit peu éco-responsable.
Merci.
Je suis en train de fouiller mes placards parce que je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte. Chaque année, on réachète des assiettes en carton doré, on réachète du papier cadeau, on réachète plein de trucs pour s'apercevoir qu'en fait, au fond de la commode et au fond du placard, on avait déjà exactement la même chose qu'on avait gardé de l'année précédente. Donc moi j'en ai ras-le-bol, j'ai 12 rouleaux de papier cadeau inentamés. Donc je vais d'abord regarder tout ce que j'ai de l'année dernière et m'en servir.
C'est très bien. Non, Noël c'est la période où justement on fait les cadeaux, bon ça c'est positif, et puis aussi on refait sa déco et une déco éco-responsable. Hop, j'en profite. Il y a plein de choses à faire, il y a plein de choses à récupérer effectivement, et faire un geste pour la planète à cette période, et ben pourquoi pas.
On verra ça tout à l'heure, Caroline Munoz. Alors Gavin Clement Ruiz, vous avez mis du soleil dans la grisaille de novembre en partant avec vos enfants de 9 et 3 ans dans un combi Volkswagen, un périple entre Paris et le Touquet.
Le Conquet.
Ah, le Conquet.
Le Conquet. Oh là là, on va en Bretagne.
J'avais compris le Touquet.
C'était presque
moi.
Le même temps. Hein, ouais, mais c'est
donc entre Paris et le Conquet.
Exactement, c'est en Bretagne. Un matin, j'ai eu envie comme ça de partir et de d'emmener mes enfants. J'ai eu cette idée assez saugrenue, vous pourrez y croire, vous allez voir, parce que ça fait partie des vieux rêves hippies comme ça, de partir dans un combi, j'avais envie de le faire. Et là, je me suis retrouvé avec eux, tout seul, je suis parti en papa, en solo, la maman était partie en voyage d'affaires, donc je suis parti, je me suis dit...
J'allais dire, elle était tranquillement en thalasso.
Non, elle travaillait. Bon, bref, j'ai emmené Raphaël, 9 ans, mon aîné, et Ellie, 3 ans, le petit dernier, qui venait de découvrir la vie sans couche, donc je vous raconte pas, c'était assez sympathique. Donc j'ai tapé sur internet, je suis allé voir comment ça se passe, j'ai tapé location combi Volkswagen, et là j'ai trouvé le combi de mes rêves. Ça s'appelle, il y a plein de sites, hein. Moi je suis allé sur Black Sheep, il y en a plein d'autres, c'est une société de location en ligne de combi. J'ai choisi le combi Volkswagen California.
Vous citez beaucoup Volkswagen, mais il y a d'autres combis.
Oui, il y a d'autres combis. Là, le combi Volkswagen fait partie des rêves hippies, vous savez, où on partait avec
la... Est-ce qu'il était jaune?
Alors non, il était blanc. Mais il avait un gros mouton dessus. C'était assez sympa, les enfants ont bien aimé.
Quel tuyau pour réussir ce type d'expérience en famille?
Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déjà poser plein de questions et se laisser guider par ces sociétés qui savent peut-être un peu mieux que vous quand vous êtes vraiment novice. Moi, je suis arrivé, je leur ai dit comment ça marche. J'ai surtout mon fils qui a bien regardé comment ça marchait. C'était hyper pratique parce que comme ça, le soir, il a pu voir. C'est lui qui a tout fait dans le combi. Tout est hyper bien prévu pour ces vacances. C'est très très ingénieux. Il y a la table qui est coincée dans la porte, on l'enlève d'un petit coup de doigt. Il y a le chauffage qui, j'ai découvert des mots techniques, chauffage stationnaire, je ne savais pas ce que c'était, et tout d'un coup vous avez chaud la nuit, c'est hyper agréable. Vous avez aussi la capucine, c'est ce petit toit qui se soulève où les enfants vont se cacher le soir et où ils font les ouaves, et ils vous regardent en bas et ils disent papa tu dors, et vous ne dormez pas bien sûr, et tout d'un coup en plein milieu de la nuit ils ont très très peur et ils viennent se coller contre vous, et là c'est des petits moments assez sympas.
Quel est le tarif de ce type de vacances?
Ça coûte entre 100 et 150 euros par jour jusqu'à 4 personnes. Donc ça reste quand même assez abordable, tout compris. Hein. Assurance incluse et kilométrage illimité. Donc j'ai envie de dire que c'est un bon rapport qualité-prix selon l'itinéraire qu'on va choisir. Donc vraiment, moi j'ai trouvé ça assez correct.
Ça se prépare longtemps à l'avance si on décide par exemple en décembre de passer un week-end avec ses enfants dans ce genre de combi ou pendant les vacances de Noël. On prépare ça à l'avance ou pas?
Moi je m'y suis pris quand même au moins un mois avant.
Un mois.
C'est assez facile. Comme il y a beaucoup de sites qui recensent ce genre de location, on peut vraiment trouver son bonheur. Moi, j'ai pris ce combi moyen. Alors, c'était assez rigolo. Il n'y avait pas les toilettes, bien sûr. Et il y avait la douche extérieure. Le combi en plein mois de novembre, aux vacances de la Toussaint, en Bretagne, sans douche. Autant vous dire que c'était un petit peu difficile. Les enfants étaient ravis parce que pendant une semaine, ils se sont pas lavés. Ils ont trouvé ça super. Mais moi, je suis arrivé comme ça au bout de mon périple et je leur avais donné un objectif. Je leur avais dit, on va aller visiter la dernière ville avant l'Amérique. Mmh. C'est le Conquet, en Bretagne. Et je leur avais dit surtout, on va dormir dans un hôtel au-dessus de l'eau, au-dessus de la mer. Il y a un hôtel qui est là. Vous êtes au milieu, ça s'appelle le Sainte-Barbe. Si vous avez envie d'un hôtel de rêve au-dessus de la mer déchaînée, c'est là qu'il faut aller. C'est surtout là que j'ai pu retrouver une douche, c'était assez agréable. Mais vraiment, vous avez une vue sublime et vous avez un rooftop en été, c'est assez agréable.
Quelques conseils basiques, par exemple, ne pas prendre de valise rigide.
Ah oui, alors
ça paraît bête. Hein, comme
et c'est
ça.
Tout bête, mais en fait,
ça prend de la place.
Hein. Et ouais, et en fait, ils m'ont dit surtout, prenez pas des valises rigides. Pourquoi? Parce que déjà, c'est vous pouvez plus trop bouger. Prenez plein de petits sacs souples et par étape et par jour. Par exemple, les fringues du lundi, les chaussettes du mardi. Et bref, vous faites des petits sacs par personne ou par groupe, et comme ça, vous pouvez pouvez les, comme une fois que vous êtes à l'intérieur, vous pouvez bouger facilement. Vous n'êtes pas coincé dans votre combi sans rien faire. Et vous, c'est hyper pratique.
Nathalie Elal.
J'aimerais bien savoir à quoi ressemble la lessive au retour. Ça doit être quand même quelque chose, non?
J'ai tout fait tout seul comme un grand.
Kevin Clement Ruiz, si on veut tenter ce périple, hein, ce road trip en combi ou en van, on peut s'inspirer du beau livre que vous éditez, hein, Le Routard Voyage France.
Quelle belle
idée. Également un joli cadeau de Noël. Pour tous ceux qui font le choix, ils sont de plus en plus nombreux, le choix de voyager en France pendant leur congé ou pour un week-end.
Eh ben, on a sorti ce beau livre qui s'appelle donc
Routard. Qui tranche avec vos collections habituelles.
Exactement, hein. Vraiment, c'est un beau livre. Il fait 2,4 kg, hein, si vous voulez faire de la muscu aussi à Noël, c'est pratique. Et c'est vraiment le condensé de tout ce que le Routard sait depuis sa naissance en 73. Et tout est condensé ici. Donc, vous allez en avoir pour tous les goûts. Ça va être aussi bien les voyages en train, si vous avez un petit frère qui aime le slow tourisme, ou alors j'ai récolté plein de choses. Il y a un chapitre sur les desserts. Vous allez voir, on va tout savoir sur la pêche Melba, on va tout savoir sur le baba au rhum. Ça, c'est pour Nathalie, je suis sûr. Il y a les divins jardins pour Philippe. Il y a la France coquine pour Guillemette.
Ah mince, je ne savais pas que j'étais chroniqueuse de coquinerie.
Et puis, pour Wally, je vous ai sélectionné une petite sélection de trek à faire pour prendre son pied, allez voir.
C'est pas beaucoup. Mal. Allez, dans quelques instants, on s'intéresse à la bûche de Noël. Je sais que c'est un marronnier, mais c'est incontournable. Hein,
c'est encore qu'à le dire.
Et puis, on s'intéressera également à quelques épices que l'on retrouve dans le vin chaud, les thés spéciaux, les biscuits comme les brédeleux. Et puis, on verra comment choisir un sapin de façon responsable. La déco, d'ailleurs, sera éco-responsable en fin d'émission. Alexia Rivière, Claire Destacan et Dimitri Hénaud m'ont aidé à préparer cette émission réalisée par Stéphanie Texier. Écoutons un titre de 1967. Cette année-là naissait le dessinateur Zep et disparaissait Marcel Aimé. Belle journée à l'écoute de France Inter.
I know I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes that you despise the same old lies you heard the night before. Though it's just a line to you, for me it's true and never seemed so right before. I practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come through. But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red, and oh, the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. Time is right, your perfume fills my head, the stars get red, and oh, the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I love you. I love you. I love you.
Frank et Nancy Sinatra.
Grand bien vous fasse.
Enfin, c'est comme ça, on n'y peut rien changer.
Ali Rebéi.
C'est comme ça et pas autrement.
Sur France Inter.
10h19, grand bien vous fasse maison et loisirs avec notre bande d'experts. N'hésitez pas à leur poser toutes vos questions.
On est sûr du doré, hein?
Ah ben oui, on est sûr.
On doute plus.
Mais non.
C'est élégant, hein?
Très élégant. Moi, quand je vois un beau sapin doré comme ça, je peux pas m'empêcher de me demander d'où il vient. C'est quoi son parcours?
Ah bah son parcours c'est très simple, ma Liliane. Tu sais, t'es un sapin. Bon bah tu viens généralement du fin fond de l'Europe de l'Est en Ukraine. Mmh. T'es arraché très jeune à ta famille sapin. Tu traverses l'Europe en camion dans le froid. Ouais. Tu finis toujours dans le froid sur le parking d'une zone indus quelconque. Tu attends qu'on te choisisse, on te choisit. Tu finis dans un appartement de banlieue. On te met des boules et des guirlandes et quand la fête est finie, on te jette. Ouais. Et puis on te bourre une dernière fois dans la voiture avant de se débarrasser de toi quelque part, mmh, discrètement. La vie d'une pute de l'Est en définitive. Ah bah oui, c'est la vie d'une pute de l'Est, pour le moins.
Ouais, j'avais pas pensé.
Ah bah oui, si. Ah, oui, ah bah quand tu penses, oui,
bah,
si.
Oui. Bah du coup, on a cette boule.
Ah bah oui, là, oui, je pense. Il est chargé. Oui. Non, allez, raison de plus pour la faire bien jolie, bien notre sûr, petite gagneuse. Bien sûr.
Philippe Collignon, le parcours décrit par Catherine et Liliane du sapin de Noël est assez vrai, là, non?
C'est assez vrai, mais heureusement qu'il y a encore de la production française dans le Morvan, en Bretagne, justement, pour faire face, justement, à cette invasion de l'Est.
De quand date cette tradition du sapin de Noël?
Du XVIe siècle, en Alsace, et puis depuis ce temps-là, ben voilà, justement, Guillemette est très heureuse de ça. On pratique le sapin de Noël chaque année dans nos appartements, et s'il vous plaît, achetez français.
Alors, que représente le marché du sapin de Noël en France?
6 millions vendus chaque année, 158 millions de chiffre d'affaires, prix moyen du sapin cette année entre 25 et 27 euros. Allez.
Alors vous conseillez un sapin label rouge. Je ne savais pas que ça existait, la labellisation rouge pour les sapins.
Comme votre studio, Ali, effectivement, le label rouge, il y a le sapin, il y a des rosiers aujourd'hui qui sont estampillés label rouge avec le vrai label rouge que l'on connaît pour le jambon ou d'autres produits. Le sapin label rouge, il est élevé en plein air, un peu comme la poule, évidemment.
Sous la mer.
Il a plus d'espace pour pousser. C'est-à-dire qu'un sapin traditionnel, l'espace est un peu moins important. Le label rouge, il a plus d'espace. Donc, ce qui donne un sapin très conique, avec une flèche très droite et un port beaucoup plus gracieux. Parce qu'effectivement, lorsqu'on va chez nos fleuristes ou dans certaines jardineries ou sur les zones industrielles de Catherine et Liliane, ils sont emballés dans ces petits filets plastiques. Déjà que c'est pas très écolo, mais en tout cas, ils sont emballés dans ces filets plastiques. Et vous ouvrez le sapin, et vous avez une chance sur 4-5. Soit il est asymétrique, c'est-à-dire il y a un côté plus important que l'autre. Soit la flèche, elle a été cassée, mais elle a repoussé. Il est comme ça, donc il est un peu brinque-branlant. Donc, en fait, la belle rouge, ça vous garantit un très beau sapin, très conique pour les fêtes de fin d'année.
Ça coûte plus cher?
10-15% plus cher, évidemment. En revanche, il va tenir beaucoup plus longtemps dans votre appartement. Parce que les sapins, généralement, sont coupés un mois et demi, si c'est pas deux mois avant la vente. D'accord? Le label rouge, il est coupé fin novembre et il ne sera disponible à la vente que le 1er décembre. Donc, on en parle aujourd'hui. Donc, ce qui veut dire, vous avez une vraie tenue, en appartement, même s'il fait très chaud. Donc, les aiguilles vont pas se mettre à tomber au bout de trois jours.
Guillemette Audicino.
Est-ce qu'il y a des épicéas label rouge? Pitié, on trouve plus d'épicéas, il y a que des normales partout,
bien,
ils sont
figurez-vous
bleus.
Figurez-vous que cette année, on va trouver des épicéas, le sapin traditionnel, label rouge, qui sent le sapin, là,
oui,
qui sent bon
sapin.
Voilà, et qui pique un peu plus que le normal,
oui,
effectivement.
Et puis à la fin de Noël, on jette son aspirateur parce que toutes les aiguilles l'ont
complètement. Oui, pas ses épines.
Mais tant surtout les nouveaux aspirateurs.
Oui, mais au moins ça sent le sapin, quoi. Et puis c'est vert, hein, c'est un sapin vert, ce qui est quand même en soi un peu.
Mais c'est le vrai sapin de Noël.
C'est le vrai sapin de Noël.
Rappelez-nous ce qu'est le sapin Norman.
Le Norman, c'est celui qui a les aiguilles beaucoup plus douces, plus vert foncé, plus longues. Et lorsqu'on le caresse, on prend presque du plaisir.
Mmh. Quels sont les...
Philippe, c'est
vous la coquine de la journée, non?
Quels sont, Philippe Collignon, quels sont les autres essences essentielles et traditionnelles que l'on peut retrouver chez son revendeur?
Alors, pour sortir un peu du sempiternel, sapin Norman ou même de l'épicéa, vous avez le grandis. Alors, le grandis, c'est extraordinaire, parce que lorsque l'on froisse ses aiguilles ou lorsque l'appartement a une température supérieure à 21
qu'est-ce
degrés, vous avez une odeur de clémentine. Ah, ça, je vous regarde, Nathalie. Ah, donc un parfum de clémentine naturel dans l'appartement, et ça c'est extraordinaire. Et cette année, ils vont être coupés à l'américaine, c'est-à-dire ils vont être taillés de façon très conique, parce que les Américains n'aiment pas les branches qui dépassent. Ils veulent un truc très conique, très régulier. Eh bien, vous avez la version grandis taillée à l'américaine à la main, donc il sera un peu plus cher évidemment que le sapin traditionnel. Vous avez le nobilis, qu'on appelle le sapin noble, qui se distingue par son feuillage vert bleuté. Donc là, on sort du sapin traditionnel, on donne un petit côté design et déco à son appartement. Et puis, vous avez le pingens, qui est un sapin encore plus rare, mais qu'on trouve quand même pour Noël. Il a une harmonie, une tenue très forte et un feuillage vert bleuté et une agréable odeur de pain. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Mais la petite astuce aussi, si vous voulez avoir un Norman qui sent le pain, vous achetez des huiles essentielles de pain en herboristerie. Vous saupoudrez un petit peu. Non, c'est un bon truc. Hein. Vous saupoudrez votre Norman et il va sentir le pain. Mmh.
Que valent les sapins que l'on retrouve en grande surface?
Vous avez une autre question? Oui, bah, s'ils ont acheté français, c'est bien. Au moins, ça fait travailler l'agriculteur. Parce que ce n'est pas un forestier qui cultive le sapin. Souvent dit, voilà, c'est les gens de la forêt. Ils dépendent du ministère de l'Agriculture, mais ce sont des agriculteurs. Donc c'est comme le blé, comme l'orge, etc. Ils récoltent leur sapin.
Caroline Munoz, j'imagine que pour vous, le sapin en plastique, c'est une hérésie.
Bah oui, c'est vrai que c'est une hérésie, même si, à la limite, le sapin en plastique, on peut le garder des années. Donc quelque part aussi, il y a... Parce que les Français le gardent 6 ans, le sapin en plastique. Mais c'est vrai que, bon... Évidemment, je suis plus pour le sapin naturel.
D'accord.
Nathalie, là. Moi, j'étais très sapin naturel. Je me suis fait engueuler par mes enfants. Je me suis fait littéralement pourrir depuis 2 ans. Donc, on est passé au sapin en plastique, à mon grand désespoir. Mais eux sont très contents. Ils ont l'impression de faire un vrai geste pour la planète.
Guillemette Audicino, je reçois chaque année des clichés de votre beau sapin de Noël. De la décoration. Non, mais pour beaucoup de nombreuses familles, c'est un rite familial.
Ah oui, absolument. Ah. Mais je pense à Alex Lutz, parce que le mien est très chargé aussi.
Cette jeune fille,
cette gagneuse est très chargée chez moi. Mais chaque année, c'est pratiquement un vote qui peut prendre, on dirait les présidentielles, c'est quelle couleur on choisit. Ah oui. Parce qu'on a, alors on essaye quand même. Il y a pratiquement tous les 3-4 ans, on revient au vert et rouge et doré parce que quand même il y a une petite nostalgie. Mais alors il y a des années très 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 fantaisistes. Il y a du multicolore potentiellement. Il y a, en plus, c'est ça où c'est pas bien, c'est qu'à force d'acheter des boules tous les ans parce qu'on change de couleur, etc., on se retrouve avec 14 kilos de boules et on n'arrive plus à choisir les couleurs. On se retrouve avec des sapins turquoise, ce qui en soit finalement, au bout de quelques semaines, on se dit que c'est pas une bonne idée. Après, le très blanc et vert.
C'est joli.
Très blanc et vert. Ouais. C'est
avec
très...
des nœuds, c'est magnifique.
Oui. Ouais. Très blanc et vert, c'est vraiment pas mal.
C'est quoi cette année?
C'est ce que je crois.
C'est quoi la tendance?
Eh ben, je suis en train de me penser là en disant très blanc et vert.
Voilà. Et aussi rose saumon un peu.
Alors, on évoquait donc la tradition familiale de la décoration du sapin de Noël. Mais la bûche, c'est partie de la tradition.
La décoration. Quand on a des enfants qui adorent décorer et qu'ils ont des amis dans lesquels les familles ne décorent pas, demandez à vos enfants d'inviter leurs potes pour décorer le sapin chez vous. C'est très très sympa.
Ouais,
donc, évoquons la bûche de Noël traditionnelle. Vous nous donnerez tout à l'heure la recette de votre tante, grand-tante Suzanne, Nathalie Elal. Mais quelle est l'origine de la bûche de Noël que l'on retrouve souvent revisitée dans les pâtisseries chics?
J'aime pas le mot.
Moi
hein.
Aussi, pareil.
Ça fait deuxième visite d'appartement témoin, je trouve, revisité. Vous trouvez pas? Enfin, je trouve ça bizarre, revisité.
Alors, ça vient d'où?
J'aime pas ça.
Ça vient d'où?
Bah, la bûche, c'est très très ancien, c'est une coutume en fait très ancien parce que avant d'être un gâteau, c'est d'abord un tronçon de bois qui réunissait autrefois tous les habitants de la maisonnée, alors tous les hôtes, hein, les parents, les domestiques autour du foyer dans toutes les provinces de France ou quasiment toutes les provinces, et donc on choisissait une bûche la plus grosse possible, donc c'était la plus grosse partie du tronc de l'arbre. On mettait le feu à l'extrémité de cette bûche, on l'appelait la coque, et puis les enfants allaient prier dans un coin du salon, de la chambre, face au mur. Et pendant ce temps-là, pendant qu'ils priaient, eh bien, on garnissait l'extrémité de cette coque avec des fruits confits, des douceurs diverses. Et puis ensuite, tout le monde partait à la messe de minuit. Après la messe, tout le monde chantait des cantiques et on revenait se chauffer à la bûche en dégustant le repas du réveillon et pendant que les enfants, eux aussi, mangeaient les douceurs. Il y avait aussi des noix, des noisettes, enfin plein de choses diverses. Et puis ensuite, on récupérait les cendres de cette bûche, parce qu'il y avait un côté très ritualisé dans tout ça, et ça servait généralement à vous porter bonheur. Il fallait absolument qu'elle se consume durant 3 jours entiers, et c'était censé vous porter bonheur. C'était quelque chose de très important localement.
Alors le monde se divise entre ceux qui apprécient les bûches pâtissières et ceux qui préfèrent les bûches glacées. Au rayon bûches glacées, Nathalie Elal, on doit bien lire les étiquettes, car on retrouve un tas d'ingrédients que ne connaissait pas feu votre grand-tante Suzanne.
Paix à ses cendres, sans la bûche.
Mais donc, on lit bien les étiquettes.
Oui, alors j'en ai pris une. Alors c'est vrai que moi, je vais vous pousser peut-être un petit coup de gueule ce matin. Alors je sais que pour beaucoup de gens, c'est bien pratique d'aller chez PICARD et d'autres qui commencent par un T et plein de belles marques comme ça qui font des surgelés. Je sais que c'est pratique, je sais que c'est tentant parce que les bûches sont belles, elles sont magnifiquement décorées, que ce n'est pas très cher parce que pour 8 personnes, vous payez environ 14, 15 euros, peut-être un peu plus, mais quand même, attention, attention, parce que là, j'en ai pris une au hasard. J'ai trouvé une compo sur Internet hier soir. Je me suis amusée à regarder la compo d'une bûche glacée fraise, verveine, fruits rouges de la marque P. Et dedans, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit plein de E quelque chose. Il y en a une dizaine.
Une dizaine.
Les additifs, les E. Alors moi, je dis E égale éliminer. Il faut absolument pas ce genre de choses. Qu'est-ce que ça vient faire dans une bûche? Vous avez bien sûr des sucres divers. Vous avez bien sûr des farines, des poudres à lever, des choses comme ça. Mais vous avez aussi des tas de stabilisants. Vous avez des purées de fruits avec bien sûr du sucre ajouté. Vous avez eh bien des nappages avec des acidifiants, des gélifiants, des stabilisants qui sont des graines de carottes, des gommes de gare, des protéines de lait, plein d'autres stabilisants avec des noms. Alors ça commence par un H, il y a 12 lettres, 15 lettres, c'est encore pire que anticonstitutionnellement. C'est terrible. Moi, ça me rend folle parce qu'on peut faire, à peu de frais, la bûche de ma grand-tante Suzanne.
Allez-y.
Par exemple.
Quelle est la recette?
Par exemple, je la mettrai
sur la page Facebook.
On la mettra sur la page Facebook avec grand plaisir. C'est très simple. En fait, il faut des biscuits à la cuillère. Alors si vous les faites maison, alors là, je dis bravo, chapeau, toute ma considération. Vous pouvez aussi les acheter, bien évidemment, des biscuits boudoirs avec mélangés, alors broyés finement avec un peu de sucre, du beurre fondu, du beurre doux fondu, un jaune d'œuf et puis de l'extrait de café liquide délayé dans de l'eau bouillante et vous amalgamez le tout. Ça se fait en 10 minutes top chrono. Ça passe au frigo une nuit bien tassée dans le moule. Le lendemain, glaçage chocolat. Et tout le monde va bien, et ça fait la blague, et tout le monde est ravi. On la décore comme une bonne gagneuse de l'Est, comme dit Guillemette. Tout va bien.
Et c'est pas moi qui ai inventé cette expression.
La recette sur l'appli France Inter et sur la page Facebook de Grand-Mère vous fasse. Alors Guillemette Odissino, l'anglophile que vous êtes...
Il fallait pas mettre le générique, moi je vais quitter le studio pour aller lancer un nouvel épisode.
L'anglophile que vous êtes conseille un beau livre de cuisine tiré de la célèbre série britannique Downton Abbey, un livre publié chez Marabout. L'argument de la série en deux mots, pour ceux qui ne l'ont jamais vu.
Ah bah fou. Alors on est juste après le naufrage du Titanic, on est dans chez les Grand Tam, une famille noble qui a un magnifique château, Downton Abbey, et il est question d'héritage. Il y a un couple avec ses trois filles. Elles vont évidemment toutes tomber amoureuses, se séparer, tromper leur mari, chercher aussi de l'argent, etc. Un domaine sublime. Et évidemment, en haut, les maîtres. Et en dessous, les serviteurs, les majordomes,
le petit personnel,
Mrs. Patmore, la cuisinière, enfin... Cette espèce de double monde, mais qui en fait ne peut pas, deux étages qui ne peuvent pas se passer l'un de l'autre, avec, enfin c'est le plus beau soap de l'histoire du soap.
So chic, hein, très chic.
Ah mais c'est so chic. Alors là, rien que le générique, vous avez des petites clochettes qui sonnent, le petit déjeuner qu'on appelle, des plateaux en argent, enfin. Magnifique.
Et à propos de série, ne manquez pas l'excellente émission de notre camarade Xavier Le Herpeur le samedi à 20h, émission que vous pouvez également podcaster. Alors que vaut ce livre de recettes, livre de cuisine d'Downton Abbey?
Effectivement, donc la série aux multiples saisons, elle est à déguster sans modération, mais quand on vous dit un bouquin de recettes inspirées d'une série, franchement, hein, moi je suis honnête avec vous, je l'ai ouvert avec beaucoup de circonspection en me disant, bon attends, tout ça, c'est un alibi, c'est un truc qui va marcher à Noël. Ça. C'est absolument divin. D'abord, c'est écrit par Annie Gray, qui est une grande historienne de la cuisine. Donc, ça plaisante pas. Non seulement, elle a dû se taper tous les épisodes de Downton Abbey 12 fois pour repérer dans chaque scène. Oh, mais là, il y a un plum pudding. Mais là, il y a une salade de sardines. Mais là, il y a un confit d'agneau au capre. Donc, il y a vraiment, dans le livre... certains plats qui apparaissent et qui passent dans la série, et il y a tout ce qui fait en fait la gastronomie anglaise, parce que ça existe, je vous assure. Ça existe. Moi, j'ai commencé à regarder les recettes, je me suis couché à 1h du mat, je les ai toutes lues de A à Z. C'est gourmand, ça demande des ingrédients en plus qui, je sais pas, il y a un truc de nostalgie. C'est-à-dire, ça demande d'acheter du sein doux. Mais alors attention, le sein doux, moi j'ai découvert que ça faisait pas peur à ce point, que finalement c'est plus pauvre en graisse saturée que plein d'autres choses. Ça demande d'acheter du beurre salé. Ça demande d'acheter une farine qui n'est pas super fine, mais juste un peu fine. Du sucre pas trop fin, juste un peu fin. Il y a quelque chose de revenir, en fait, les Anglais, ils cuisinaient finalement un peu comme nos grands-mères, que ce soit parce que le livre est divisé en deux parties, upstairs, downstairs, donc les plats qu'on mange au salon avec les maîtres, et ce que bah, le personnel mange en bas. Moi j'hésite, hein, j'aime autant en haut qu'en bas. Il y a d'ailleurs une bûche de Noël super, et la recette des scones... Bon, il était un peu tard quand j'ai fermé le livre, mais j'étais limite de la commencer tout de suite et d'essayer de la faire. C'est vraiment, et plein d'anecdotes sur cette époque-là. Dans les années 10, dans les années 20, qu'est-ce qui se passait en Angleterre? C'est vraiment extra.
Un livre publié chez Marabout.
Oui, chez Marabout, Annie Gray, Danton Abbey, le livre de cuisine.
Nathalie Lal.
Non, je voulais juste signaler qu'il y a aussi un livre qui m'a plu. Il y a un livre qui s'appelle Bûche, tout simplement, chez Édition First, et qui... Alors, qui va réinterpréter, non pas revisiter, la bûche de Noël avec des grands pâtissiers. Mais pour le coup, ce n'est pas la bûche de Noël de ma grand-tante Suzanne, c'est beaucoup plus élaboré.
Allez, n'hésitez pas à nous appeler, à réagir, à poser des questions à tous nos experts au 01 45 24 7000 et à réagir également sur l'appli France Inter et la page Facebook de Grand-Main vous fasse.
Fini la 8-6, fini la fumette, c'est fini les bêtises, les clubs de striptease, les femelles à lunettes, la migraine au réveil, j'ai la coupe d'un Bee Gees, une haleine de fenêtre, chez moi ça sent la vieille, ça fait au moins 10 piges que j'ouvre plus les fenêtres. Je prends la vie comme un jeu. Mon ami, c'est comme un jeu. Sur ma vie, je prends la vie comme un jeu. Mon ami, je kiffe ma vie donc j'écris sur ma vie. Je kiffe ma vie donc j'écris sur ma vie. On m'appelle pas, on m'harcèle. Fais ça, fais si faut pas fléchir ça.
Seulement, j'ai le cœur sur la main, j'ai le cuir sur les manches. Les mêmes qui empochent, y'a trop d'embûches. Voir ton ennemi en Porsche quand t'es dans le bus, c'est comme un parachute qui s'accroche mal. La femme de tes rêves avec l'homme de tes cauchemars. Chaussures turquoises, je porte mes costumes qu'une fois. Devine, je le jure sur quoi?
Sur ma vie. Si je perce, n'insiste pas avec moi, tu risques de perdre. Je ne ferai pas si j'ai pas envie de le faire. Pour les miens, je vise le best. Ils diront tous que je suis leur pote. Si je perce, n'insiste pas avec moi, tu risques de perdre. Je ne ferai pas si j'ai pas envie de le faire.
Némir interprété sur ma vie.
Ali Rébéi, grand bien vous fasse, sur France Inter.
10h38, grand bien vous fasse, maison et loisirs, avec notre bande d'experts. N'hésitez pas à leur poser toutes vos questions. Gavin Clément Ruiz, je rappelle que vous êtes responsable au Guide du Routard. En décembre, vous nous conseillez de partir pour un week-end, ou bien pendant les vacances de Noël, dans le Béarn, en vallée d'Ossau. Et le Pyrénéen que je suis profondément est comblé.
Puis j'ai une basque aussi pas loin, là. Il y a Caroline.
Je vous emmène Caroline Minose.
Je vous emmène dans la vallée d'Ossau. C'est situé au sud de Pau. C'est directement dans cette zone. C'est vraiment une belle balade qui vous attend. Vous allez monter, vous allez descendre. Il y a des paysages à couper le souffle. Je vous propose de vous arrêter tout de suite dans un petit village. C'est la porte d'entrée pour la vallée. Ça s'appelle Arudy. Et là, il y a plein de petites adresses délicieuses pour manger, chiner, pour dormir, prendre le goûter, le thé. C'est parfait pour ces vacances. Je vous arrête tout de suite au château de Druon. C'est là où vous allez découvrir un couple adorable, les Reichenbach. C'est à Sévignac-Mérac, très précisément. Et là, ils ont restauré un château. Si vous aimez la déco, et là, je pense que Caroline va me suivre, et puis plein d'autres personnes, c'est ici qu'il faut venir dormir. Chaque chambre est unique, c'est vraiment très très joli. C'est le château de Druon, des époux Reichenbach. Et si vous aimez manger, on va continuer un petit peu plus loin. Là, je vous emmène à Buzy, cette fois. C'est l'étable d'Ossau. Alors là, derrière les manettes, derrière les fourneaux, plus précisément, vous avez Mathias, qui est argentin, et vous avez Christian, qui est du sud-ouest. Et tous les deux, ils proposent une cuisine alors bio, déjà, et puis créative, sincère, vraiment belle, ça donne envie, et vraiment bon marché, surtout. 16 € la formule à midi en semaine, c'est vraiment un bon rapport qualité-prix, c'est un tout petit peu plus cher le week-end. Je vous propose de réserver, surtout, c'est à Buzy, la ferme, l'étable d'Ossau de Christian et de Mathias. Et puis, il y a plein d'autres adresses à découvrir. On a une adresse au Routard qu'on adore, c'est le coup de cœur de ma collègue Amanda qui a craqué pour la ferme Fradi.
La ferme Fradi.
Là, c'est à Louvigjuzon. On est toujours dans la vallée d'Ossau. Et pourquoi? Parce que c'est une famille avant tout, la famille Siadou. Ils sont éleveurs de chèvres. Et alors, ils font bien sûr le produit phare de la région, c'est le fromage de chèvre. Et alors, là, c'est pas mauvais du tout. Il est très très bon le fromage de la famille Siadou. Mais aussi, ils ont leur chèvre Angora et ils travaillent la laine de Moët. Donc ça va être maintenant, deux fois par an, en janvier, en février, bientôt, ils vont tondre les fameuses chèvres, ils vont travailler la fibre qu'ils vont tisser avec une filature labellisée patrimoine vivant. Donc ça, ça participe du travail local et du savoir-faire local. Et là, alors là, c'est parfait pour les fêtes de Noël. Vous allez pouvoir vous acheter des écharpes, vous allez pouvoir vous acheter des gants, des pulls. J'ai même trouvé un petit béret pour vous, Ali. Vous allez voir.
J'ai une tête à béret.
Oui, vous avez une tête à béret. Il faut faire attention à vos petits crânes, là, rasés. Vous allez avoir froid, sinon. Vous allez aller à la ferme Fradi. Et puis, si vous pouvez pas y aller, vous allez sur leur site internet et les frais de port sont offerts jusqu'à 90 €. Alors, c'est pas lié à Black Friday ou quoi que ce soit. Hein, c'est toute l'année. Donc voilà, ça, c'est assez agréable pour les fêtes de fin d'année. J'ai demandé un plaid pour Noël, bah, on verra. Plus de mes baskets.
Et un plaid et des baskets, ça va? Ouais, non.
Nu en dessous. Hein. Allez, ensuite, je vous emmène à Casté, c'est un autre petit village de la vallée avec ses jolies maisons. Là, vous allez voir les traces du passé vraiment sur les façades. Il y a des dates, il y a des symboles, il y a des fleurs. Chaque maison est bien particulière. Il y a un autre village aussi qui est une autre belle porte d'entrée pour visiter la vallée, c'est Biel, avec des demeures de pierre du XVIe siècle. Vous allez voir, il y a des belles portes et des très très belles fenêtres au cœur du village. Je vous propose de voir ça à Biel. Et puis ensuite, vous pouvez aller faire des randonnées, bien sûr, tout simplement. Ça, je sais que ça va vous plaire. Aller au col de Marie-Blanc. Et puis, vous pouvez aller finir votre balade dans une station thermale, les Aubonnes, assez connues. C'est là où la princesse Eugénie descendait autrefois. Et même le peintre Eugène Delacroix.
Dimitri Hainaut mettra sur la page Facebook toutes les adresses que vous avez citées. Vous pouvez également visiter le site Vallée d'Ossau, tout attaché, -tourisme.com, Vallée d'Ossau-tourisme.com, et vous m'avez donné envie de passer les fêtes en Vallée d'Ossau. Nathalie Hellal, journaliste, spécialiste en gastronomie, consommation et art de la table, vous avez développé depuis de nombreuses années une passion pour les épices que l'on va évidemment retrouver en abondance sur la table des fêtes.
Oui, c'est vrai qu'à Noël, enfin pour moi, Noël égale cannelle. Je suis désolée, hein, c'est la première chose facile qui arrive. Mm-hmm. Mais c'est vrai qu'il y a une odeur de cannelle qui se dégage de beaucoup, beaucoup de spécialités, notamment les fameux brédeleux, alsacien, cher à Guillemette Odissino, je crois, et à beaucoup de gens qui nous écoutent, parce que ce sont littéralement des petites merveilles, mais ça sent la cannelle, ça sent souvent les amandes, alors ça c'est pas une épice, sinon vous avez bien sûr le clou de girofle, vous avez la badiane ou anis vert, vous avez la muscade, la noix de muscade, vous avez plein d'épices.
Coup de projecteur d'abord sur la cannelle.
Oui, alors la cannelle, c'est vrai qu'il y a une saveur douce, chaude, sucrée, très réconfortante. Et je dis sucrée volontairement parce qu'il a été prouvé dans certaines expériences menées par des grands scientifiques que la cannelle diminue l'envie de sucre. Donc c'est vraiment, je dirais, l'épice idéale pour tout diabétique.
Oui, elle diminue la glycémie après un repas.
Exactement.
C'est-à-dire qu'une infusion à base de cannelle diminue l'infusion.
Absolument.
Si en plus vous avez marché 30 minutes après votre repas, alors là, vous la diminuez vraiment, cette glycémie.
Alors, c'est vraiment l'épice de base hein, pour le vin chaud, les pains d'épices, les spéculoos, même pour un délicieux gâteau brioché que j'aime beaucoup. C'est le Zemmet Küche en Alsace. Est-ce que Guillemette connaît également ?
Oui.
Alors, c'est une pâte...
Ah, mais tout ce qui se mange en Alsace, je connais.
C'est une pâte briochée, tout simplement. Dans laquelle on va faire des petits trous. On va remplir, alors bonjour les calories, attention, on va remplir chaque petit trou de crème fraîche à la petite cuillère et on va saupoudrer tout ça d'un mélange de sucre et cannelle et tout ça va au four. C'est juste, voilà, c'est juste divin. Mais bon, bien sûr, il y a plein d'autres recettes à base de cannelle. Et puis, il y a surtout deux grandes variétés de cannelle, je voudrais le signaler, c'est important. Il y a celle originaire de Ceylan, qu'on trouve le plus souvent, qui est la cannelle vraiment commune, et une autre originaire d'Indonésie qu'on appelle aussi la casse, qui est peut-être plus douce, plus subtile, moins connue, qui à l'époque, enfin il y a très longtemps, était moins cher et aujourd'hui qui devient justement plus prisé et plus cher. Mais c'est intéressant de la connaître aussi, cette cannelle.
Autre épice, le clou de girofle. Moi, ça me rappelle toujours le dentiste.
Oui, vous avez complètement raison, mais vous avez totalement raison parce que dans le clou de girofle, il y a une substance qu'on appelle le eugénol et qui en effet était le grand remède anti-carie et désinfectant, antiseptique des dentistes pendant très très longtemps. Alors aujourd'hui, le clou de girofle, eh ben, c'est quand même quelque chose qui sert à fabriquer, vous savez, les fameuses pommes d'ambre, c'est-à-dire des oranges piqués de clou de girofle qui vont décorer la maison. Enfin, ça fait très longtemps que ça existe, mais c'est toujours bien de s'en rappeler. C'est une déco très écolo, pour le coup. Et puis surtout, le clou de girofle, c'est indissociable de plein de recettes. Donc, encore une fois, les pains d'épices, les spéculoos, mais aussi le foie gras. Et je suis désolée pour ceux qui ne veulent pas de foie gras, mais ça marche très, très, très bien avec. Et puis, tout simplement, si vous faites un pot-au-feu à Noël, pourquoi pas, on peut faire un pot-au-feu un peu plus décalé. Et bien, toujours planter des clous de girofle dans un oignon et ça va parfumer votre pot-au-feu. Et puis, bien sûr, dans plein de biscuits.
La badiane.
Alors, la badiane, c'est plutôt quelque chose qui vient des pays nordiques. On s'en sert beaucoup, beaucoup en pâtisserie là-bas. Mais autour de la Méditerranée, on va l'utiliser davantage pour parfumer les plats à base de canard, de poulet, certains poissons, certains crustacés. Et évidemment, évidemment, il est impossible d'imaginer un pain d'épices réussi sans petites badianes, sans petites étoiles d'anis, ne serait-ce qu'en décoration, c'est absolument somptueux. Ça, plus un bâton de cannelle, ça fait la blague tout de suite.
Est-ce que vous avez une recette de petits biscuits avec des épices? Je pense évidemment au brédeleux,
oui,
je ne sais pas comment on dit.
Les
exactement. Brédeleux.
Est-ce qu'il faut le prononcer aussi?
Oui,
brédeleux.
En fait, si c'est la fin, c'est neuleux. Il faut traîner. Non, mais c'est vrai.
La recette.
Oui, en fait, ce sont des anis brédeleux. Ce sont des petits gâteaux à l'anis, parce que les premiers brédeleux qui sont en fait des petits pains, hein, ça vient de l'allemand qui brot, hein, petit pain. Le premier, c'est le anisbrot, littéralement le pain à l'anis. Et ça, c'est vraiment le plus populaire. Je vous mettrai aussi une recette, si vous le souhaitez, à disposition sur la page Facebook de l'émission.
Philippe Collignon, beaucoup, beaucoup de questions d'auditeurs sur qu'est-ce qu'on fait l'hiver venu. Le froid va arriver vraiment ce week-end. Quand on a des plantes sur sa terrasse, dans son jardin, quels sont les principes de base?
Il faut les protéger avec ces fameux voiles d'hivernage dont on avait parlé la dernière fois. Donc ces voiles qu'il faut aussi mettre, mais aussi enlever de temps en temps lorsqu'il fait beau et il ne gèle pas, parce qu'une plante qui est sous voile tout l'hiver, eh bien vous la retrouvez un peu décomposée au printemps. Donc en fait le voile, ça s'ouvre, ça se ferme, ça s'ouvre, ça se ferme. Donc déjà ça. Vous mettez vos plantes près du mur du balcon et pas près de la rambarde, parce que c'est là où la plante est beaucoup plus protégée des vents dominants ou du froid. Donc c'est la petite chose. Et puis souvent on a les pots sont sur la dalle, sur le sol, sur le zinc, etc. Il faut surélever le pot, par exemple, avec des petites briques, etc. De manière à ce que, on appelle ça le cul du pot, ne touche pas le sol et vous avez des plantes qui vont moins geler. Aussi, ça, c'est le petit truc à savoir.
Guillemette Odissino.
Mais moi, on m'a dit, quand je mettais les petits voiles, là, souvent, je mettais le petit voile sur le dessus, on m'a dit qu'en fait, ce qui compte, c'est surtout de protéger le pot, en fait, les racines.
Les plantes gèlent par les racines, il faut protéger, bien sûr, le pot, donc c'est pas qu'un voile, là, au niveau du pot, il faut mettre, par exemple, des feuilles mortes dans un voile d'hivernage, par exemple, ou de la paille, et aujourd'hui, il existe des cache-pots qui protègent le pot du froid.
Allez, continuez à nous appeler, à poser vos questions au 01 45 24 7000. Agnès Obel interprétait Island of Doom.
Grand bien vous fasse sur France Inter.
Grand bien vous fasse, maison et loisirs se poursuit avec vous. Caroline Munoz, vous animez une chaîne YouTube consacrée à la décoration. Vous êtes journaliste pour le magazine Antiquité Brocante et chroniqueuse dans l'émission William à midi sur C8. Et vous publiez Ma déco éco-responsable pour comprendre, choisir et agir. C'est publié chez Mango. Alors je me suis promené hier dans les rayons d'un supermarché et j'ai vu de plus en plus de décorations de Noël fabriquées en bois. Évidemment, c'est un peu plus cher que la déco en plastique.
Oui, c'est vrai que la tendance est vraiment à aller vers l'éco-responsabilité, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même une préoccupation essentielle pour nous tous, avoir protégé notre planète. Et je me suis aperçue aussi que, enfin, on le sait, l'intérieur de nos maisons est plus pollué que l'extérieur. 8% plus pollué que l'extérieur. Donc, il est important aussi de faire une déco qui est saine pour notre santé, pour notre bien-être, et qui respecte notre planète. Donc oui, aujourd'hui, la déco de Noël, on en parlait, mais avoir une déco naturel en utilisant des matériaux naturels comme le bois est essentiel.
Et le bois, c'est le matériau naturel et écologique par excellence.
Oui, c'est vrai, parce qu'on a tendance à se dire oui, mais le bois, il y a forcément la taxe carbone avec l'importation quand on fait venir du bois exotique, mais on a aussi du bois en France qui est exploitable. Mmh. On a des labels qui permettent justement de reconnaître du bois qui est complètement naturel.
Philippe Collignon, sur les labels.
Il y a des forêts de plus en plus labellisées. Aujourd'hui, on respecte ces forêts. Il faut acheter du bois français. Il y a eu beaucoup de bois depuis 1999, depuis la fameuse tempête. Maintenant, il y en a un peu moins, heureusement, sur le marché. Et donc, le bois français revient en force.
Oui, il faut vraiment respecter la chaîne, justement, d'exploitation des forêts. Et une fois qu'on s'est renseigné, qu'on a les bons labels, on fait attention et on peut faire un geste.
Deux labels, PEFC et FCS.
FCS. FCS, c'est plus pour les bois exotiques. Ça veut dire que ça a été coupé d'une certaine façon et expédié aussi d'une certaine façon. Et l'autre label, c'est plutôt pour l'Europe et l'Amérique du Nord.
Quelles sont les conditions pour qu'un meuble, un objet de décoration, soit en bois soit écologique?
Eh bien, pour qu'il soit écologique, il faut déjà qu'il ait respecté, qu'il ait un bon bois, un bois, donc on a dit, hein, qui respecte la chaîne logique. Et puis aussi, il faut faire très attention à tout ce qu'on met sur le bois, les teintures, les vernis, tout ça, c'est extrêmement nocif. Il y a des moyens aujourd'hui pour faire nos produits nous-mêmes. Et dans mon livre, justement, j'en parle avec des ateliers, des do-it-yourself, pour faire sa propre colle, pour faire sa propre teinture, sa propre peinture. Aujourd'hui, on peut teindre ses tissus, ses nappes, ses objets, avec des fleurs, avec des plantes, avec des tas de choses. Il y a des produits naturels comme le blanc de meudon, le vinaigre blanc. Tout ça, ce sont des produits qui ne coûtent pas cher et qui sont bons pour notre santé et qui respectent notre planète.
Pendant les fêtes, on peut utiliser de la vaisselle et des couverts en bois. Ça fait pas un peu petite maison dans la prairie?
Non.
Parce que vous conseillez, par exemple, ce type de couvert dans votre livre?
Bah, moi, je vais le conseiller parce que ça peut être très déco. Faut pas.
Ça vous chante parce que j'ai des...
Oui.
Ustensiles en bois chez moi.
Non, mais il faut le savoir que tous le plastique, ça va être interdit à partir de janvier. Mmh. Donc, il n'y aura plus de couverts en plastique, d'assiettes en plastique. Donc, l'alternative, c'est le bois. Mais pourquoi pas? Il y a des très jolies choses. On peut les décorer, on peut les peindre, on peut faire des tas de choses.
Vous conseillez également d'utiliser le carton. C'est un matériau 100% écolo.
Oui, parce
que... Quels sont les avantages du carton?
Alors, le carton, c'est extrêmement solide. On peut faire des meubles en carton aujourd'hui, mais alors vraiment des tables, des chaises, on peut s'asseoir dessus. C'est complètement... Il y a des a priori sur le carton. On se dit, c'est pas solide. C'est moche. Non, c'est très joli. Il y a des artistes qui font des trucs fabuleux en carton. Et puis, le carton, c'est biocompostable.
Oui, puis le carton, on l'utilise en jardin aussi, voilà, pour faire, par exemple, les jardins en lasagne, carton,
voilà,
déchetons, branchage. Attention, pas des cartons avec de l'encre.
Et voilà, c'est ça. Il faut faire attention au carton qu'on emploie. Mais le carton est biodégradable et entièrement naturel.
J'ai une petite question. Oui. Ça vieillit comment, les meubles en carton?
Ça vieillit très très bien. Ça peut durer dans le temps et ça a plein d'avantages. Non, en plus, vous pouvez mettre un vernis, attention, vernis bio dessus, hein, pour éviter justement d'avoir toutes ces toxiques dans votre maison. Et vous avez des cartons, mais ça dure mais des années, autant qu'un meuble en bois.
Moi, j'ai acheté des étagères en carton d'une célèbre enseigne japonaise qui tiennent très très bien le coup.
C'est très solide.
Les architectes et décorateurs du monde entier plébiscitent de plus en plus le bambou. Quels sont les avantages du bambou, Caroline?
Eh bien, le bambou, alors aussi, c'est, on peut dire, la plante naturelle par excellence, parce que le bambou, ça pousse très très vite, ce qui fait que du coup, quand vous abattez un arbre, avant qu'il refasse, qu'il renaisse, etc., ça met du temps. Le bambou, lui, en 3 ans, il va renaître. Donc, on peut faire des tas de choses. Et on s'est avéré qu'il a des qualités essentielles. Non seulement il est imputrescible, il résiste à la chaleur, on a de la vaisselle en bambou aujourd'hui. La vaisselle en bambou, on peut la mettre sur le feu, elle peut chauffer. C'est une matière qui ne va pas retenir les odeurs. Non. Aujourd'hui, on a des matériaux qui sont vraiment éco-responsables et qui sont très beaux en plus.
Le liège, c'est également un matériau écologique de premier choix.
Premier choix, effectivement. Il a beaucoup de qualités, des qualités thermiques, phoniques, pareil, imputrescibles. Et le liège, il faut savoir que quand vous enlevez l'écorce du liège, vous n'abattez pas l'arbre. En fait, vous enlevez simplement son enveloppe. Et c'est cette enveloppe à qui va avoir toutes ses qualités essentielles pour justement faire des tas de choses. On a de très beaux objets en bambou aujourd'hui qui existent, en liège, pardon, et vraiment, on peut faire des choses très chouettes.
Et puis, n'oublions pas que chiner en brocante, vide-grenier ou chez un antiquaire, c'est un geste, ce sont des gestes éco-responsables.
Oui, on parlait tout à l'heure du Black Friday, je crois que ça fait une semaine qu'on nous en parle partout, on n'en peut plus. Tout ça, ça pousse à la consommation, c'est complètement aberrant, ça vient des États-Unis. Aujourd'hui, on peut chiner, on peut recycler, on peut faire le tri dans ses vêtements, dans ses affaires et du coup on ne favorise pas la consommation et on est complètement éco-responsable. On a des gestes que nous pouvons faire nous-mêmes pour notre santé et notre planète, donc pensez-y.
Oh oui, mais je suis tout à fait d'accord. Moi, je suis en train de regarder les petits vide-greniers de mon quartier. J'ai l'intention d'acheter la moitié de mes cadeaux de Noël là-dedans.
Mais c'est génial.
En plus, finalement, même les jeunes gens adorent le vintage. Donc, il n'y a vraiment aucune raison de se priver.
Bien sûr, tout à fait, c'est tendance.
Et vous allez être fiers de moi, Ali, juste, je vais faire mes bougies moi-même. Vous savez que je suis complètement obsédée par les bougies.
Ah, bah, tu sais, c'est ce qui pollue le plus nos intérieurs. Bah, voilà,
les bougies à base de paraffine.
Effectivement. Voilà.
Merci beaucoup, Caroline Munoz. Vous reviendrez évoquer d'autres gestes éco-responsables pour la déco de la maison. Merci beaucoup Nathalie Elal, Gavin Clément Ruiz, Philippe Collignon et Guillemette Odissino. Vous pouvez continuer à échanger, discuter sur la page Facebook de Grand Main Vous Fasse et réécouter cette émission sur l'appli France Inter. Merci à la belle programmation musicale de Muriel Pérez. Merci aux standardistes de France Inter. Lundi, avec Santé Magazine, on s'intéresse aux bienfaits des graines. Graines de chia, de tournesol, de lin, de courge, de chanvre. Mais également les fèves, les pois chiches, les amandes, les noix. Nous attendons toutes vos questions et témoignages au 01 45 24 7000. Et ce sera le grand retour de notre camarade Thierry Lhermitte, l'ambassadeur de la Fondation pour la Recherche Médicale. Belle journée à l'écoute de France Inter.